vient de tomber dans le monde du hockey, là, on vient d'apprendre de sources sûres, et ce, contre toute attente, que Montréal a échangé...
Ça vous laisse sur votre faim de pas savoir ce qui se passe avec votre équipe de hockey préférée? Imaginez pas savoir si vous allez manger ce soir. Personne ne devrait rester sur sa faim. La Guignolée des médias vous invite à donner chez Jean Coutu, Provigo et Maxi ou à guignolée.ca.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi, nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez INCA.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Sur une distance de 20 verres, la Coupe Vanier au bout du pied.
Balle frappée solidement par White du côté gauche. Oui. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Cheese 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, Les Architectes du son.
Vendredi 10 décembre 2021, ici Alex Bergeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bon vendredi sur les ondes de Cheese 94.3 à Québec et de CFAC 88.3 à Sherbrooke, vos radios universitaires préférées. Pour une avant-dernière émission en 2021, semaine prochaine dernière évidemment, pour parler de l'actualité de la semaine et comme à chaque fin d'année, spécial de Noël, avec le récapitulatif de ce qui s'est passé sur l'Internet dans la dernière année. Les vidéos et les palmarès, ça commence à sortir. On commence à avoir les tendances de ce qui s'est donné ou de ce qui s'est recherché, je devrais plutôt dire, sur Internet. Dans la dernière année, donc, les palmarès Facebook, Google. Google, qui d'ailleurs a une section spéciale pour le Québec cette année. Donc, on aura vraiment les vrais de vrais chiffres de ce qu'on a recherché au Québec. C'est quand même cool, juste pour ça. Avant toute chose, il y a eu une autre conclusion de dossier, quand même assez importante, mais qui a failli ne jamais arriver. Puisqu'hier, au terme d'une seule journée de délibération, les membres du jury au procès de la belle-mère de la fillette martyrisée à Granby a finalement été reconnu coupable sur toute la ligne, comme on pouvait le lire à plusieurs endroits, donc de meurtre sans préméditation, en tout cas que c'était pas prévu qu'elle tue sa belle-fille dans la journée, mais tu sais, qu'elle l'avait tuée. Que ça, c'était assez... C'était assez dur à détourner. Quoique, il y a quand même eu de la défense, l'intention de seulement immobiliser, que c'était pas le but recherché, nanana. Fait que tu sais, il y avait quand même... cette... mini porte. Donc, on a essayé d'une mini façon de s'en tirer. Et même à deux reprises, on a tenté de faire avorter le procès du côté de la défense parce qu'évidemment, on essaye d'aller chercher et de gratouiller toutes les petites possibilités de faire avorter le procès parce que c'était assez difficile de prouver le contraire. Selon le criminaliste Charles Côté, la poursuite avait une certaine longueur d'avance dans cette cause très médiatisée. Certains témoignages ont été percutants, avec une preuve exhaustive, va-t-il affirmer. notamment celui du fils de l'accusé. Le fait qu'il soit retourné devant les policiers pour ajouter un élément d'information assez important au niveau de la culpabilité de l'accusé, donc de la belle-mère, à savoir que du ruban se serait trouvé sur la tête et tout le visage de l'enfant de 7 ans a été un moment fort, selon Maître Côté. Parce que la question était là. La défense essayait de jouer sur le fait qu'il n'y avait peut-être pas d'obstruction pour respirer. Donc, elle était, oui, enrubannée dans du tape, mais seulement pour les bras et les jambes. Tandis que, selon tous les autres témoignages, elle avait... Ben, en fait, non, c'est pas vrai. Selon le témoignage, notamment, du fils de l'accusé, elle avait du tape sur la bouche et sur le nez. Donc, empêchée de respirer complètement. Bon, c'est sûr qu'évidemment, quand les autorités sont arrivées, quand les ambulanciers, la police est arrivée, elle avait déjà désenrubanné la jeune fille, donc il n'y avait pas moyen de le prouver, mais parce que il y a eu le témoignage du demi-frère que ça a aidé à avoir le verdict qu'on a obtenu. Notamment, en fait, aussi, ce qui a été retenu, c'est le fameux message texte qu'elle a envoyé au conjoint, donc techniquement ce serait le père de la fillette, pour dire « là, elle est attachée puis elle bougera plus ». Tu sais, la manière que c'était écrit, c'était pas un accident. Tu sais, c'était difficile de prouver que c'était pas supposé arriver. Tu sais, ça devenait très, très nébuleux. Pour Walid Ijazi, avocat criminaliste, le témoignage de la femme de 38 ans au cours duquel elle a reconnu avoir appliqué du ruban adhésif sur l'enfant a aussi été un point tournant lorsqu'elle dit qu'elle n'a jamais cherché à la tuer et qu'elle l'a fait pour sa sécurité. Ses explications n'ont pas été crues parce que, selon le récit des événements, c'est disponible sur la presse parce que maintenant, l'ordre de ne pas divulguer d'informations est levé maintenant que le procès est terminé. On pouvait lire que elle s'était enfuie la veille. Bon, justement, le témoignage du voisin qui avait été beaucoup questionné de « Voyons, pourquoi t'as rien fait? » La petite fille a tenté de s'enfuir de chez eux. Et elle, la belle-mère, pour que ça arrive pas là, tapé pour qu'elle puisse arrêter de s'enfuir parce que même dans la nuit, elle a tenté de requitter la maison à quelques reprises. Donc, c'est pour cette raison-là qu'elle a attaché la fillette. Puis bon, parce que peut-être elle faisait du bruit, parce qu'elle criait, ben là, c'est à ce moment-là qu'il y aurait eu le tape sur sa tête. Ce qui est arrivé, bon, les événements sont survenus en 2019. Ça a mené à la commission d'enquête de Régine Laurent pour justement la réforme de la DPJ, tout ça, qui devrait peut-être avoir lieu. Dans ce cas-ci, on ne l'avait pas relaté pendant le procès. Donc, une information qui est quand même assez importante de dire, d'une certaine manière. Bon, c'est sûr que dans les 14 jurés, il y en a là-dedans qui doivent regarder la TV de temps en temps quand même, donc doivent être au courant que ça découle de cet événement-là, qu'il y a eu une commission d'enquête qui a été déployée par la suite, mais ça n'a pas été remis sur la table en moyen de, disons, faire pencher la balance du côté de l'accusation pour dire, regardez, cet événement-là est tellement tragique, tellement qu'on fait une commission d'enquête pour voir ce qui n'a pas marché, entre guillemets. Important aussi qui n'a pas été mentionné pendant le procès parce que justement ça ne concernait pas, entre guillemets, l'accusation qui était à ce moment-là devant les tribunaux, c'était que la belle-mère, 2 ans auparavant, avait déjà été arrêtée en état d'ébriété et pour avoir utilisé une force excessive sur cette même petite fille-là. L'enfant s'était rendu par elle-même dans un dépanneur pour demander de l'aide. Elle avait 5 ans. Les policiers ont visité le domicile de la fille et sa belle-mère. Et la belle-mère a été accusée de voies de fait graves. Toujours en septembre 2017, donc littéralement 2 ans auparavant des événements de 2019. Alors qu'elle était chaude, qu'elle était en état d'ébriété, la belle-mère a tiré la fillette de 5 ans par les cheveux et l'a projetée au sol. voies de fait graves ont été posées contre elle. Les policiers sont intervenus deux fois à la même adresse en 2017, mais aucune accusation n'avait été déposée à ce moment-là. En 2017, un médecin s'était également demandé si l'enfant était enfermé dans sa chambre. Selon un document judiciaire qui n'a pas été présenté au jury, la spécialiste se posait des questions car la fillette avait souffert d'une perforation de l'intestin, d'un gonflement de la vessie. Selon une demande déposée par le tribunal pour réviser sa supervision par la DPJ, le médecin a souligné que la fillette vivait un état de stress post-traumatique sous-jacent lié à la négligence ou à d'autres traumatismes non précisés qu'elle aurait vécu. Selon un jugement du 30 mai 2018 de la Chambre de la jeunesse, elle avait un retard de croissance, de scolarisation et de développement global. Ça faisait juste en rajouter davantage. Bon, comme je le disais, la défense a essayé d'esquiver le procès, bon, avec notamment le fait que, justement, parce que la cause était médiatisée, que les procureurs... Il avait affirmé que le procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales avait omis de transmettre des éléments de preuve pendant le procès. Donc, l'avocat Maître Alexandre Biron avait tenté de convaincre le juge Louis Dionne que la couronne savait depuis le mois d'août qu'elle voulait contester le témoignage de la pathologiste Annie Sauvageau qui était présentée par la défense. Celle qui disait qu'il n'y avait pas de tape sur la tête de la victime, sauf erreur, là, je viens de m'avancer sur quelque chose où j'ai mélangé deux personnes, mais en tout cas, il voulait la couronne voulait contester son témoignage et techniquement, Biron n'aurait pas été mis au courant que ça allait se produire. Ils ont tenté d'arrêter le procès à cause de ça. Ça n'a pas fonctionné. Au troisième jour du procès, Maître Biron ouvert la journée en avançant qu'un média avait commis un outrage au tribunal en divulguant des informations que les jurés ne connaissaient pas. Évidemment, là, on ne précise pas exactement qui aurait fait quoi, mais quand même. Donc, il y aurait des informations qui auraient fuité. L'avocat a fait entendre, sans la présence du jury, un extrait d'une émission de radio en ligne. Les propos litigieux étaient émis par un avocat qui commentait la cause et non pas par un journaliste. Donc, un invité était au courant de certaines informations, ou peut-être était-il dans la salle dans les deux premières journées, et en parlait sur les ondes radio à quelque part. Là, on précise pas exactement si c'est en Mauricie où le procès avait lieu, ou c'était plus du côté de Granby où le drame avait été arrivé, mais quand même. Donc, à quelque part, on parlait du procès. Évidemment, le juge Louis Dionne était en maudit. On n'avait pas besoin de ça. Pour certains, les ordonnances de non-publication et les dispositions du code, c'est comme si c'était écrit sur du papier de toilette, a-t-il rajouté, visiblement furieux. Le juge a convoqué les jurés un par un pour s'assurer qu'aucun d'entre eux n'avait écouté l'émission de radio en question. Personne ne l'avait fait, donc le procès a repris son cours le lendemain matin. Et c'est vraiment ça, l'essentiel de ça. C'est que ce genre de procès-là peut avorter pour n'importe quelle erreur de procédure, pour un papier qui n'était pas à la bonne place, pour un avocat avec une trop grande trappe qui veut avoir son moment de gloire sur la radio parler, peu importe. Mais que le jugement aurait été complètement inverse, ça aurait créé un précédent quelconque qui aurait eu ne serait-ce que tellement de colère dans la population en général, mais après ça, c'est sûr que c'est difficile de commencer à expliquer que oui, la preuve a fait en sorte que nanana, il est arrivé ci, ça, ça. Fait que c'est sûr que ça devient plus difficile pour un public plus général. Mais c'est sûr que seulement dans l'idée où, justement, ce procès-là est assez particulier. Bon, il y a eu, entre autres, des témoignages bon, du frère... En fait, les trucs contradictoires de la belle-mère qui dit « Oh non, non, elle n'était pas enfermée dans sa chambre, elle a soupé que nous autres, quand dans les faits, elle avait rien du tout de manger. » Fait le listing, entre guillemets, des événements est disponible bon, dans les médias, bien évidemment, parce que maintenant, c'est chose faite. Sinon, bon, les quelques heures nécessaires pour arriver à un verdict permettant de présumer que la preuve était convaincante pour le jury, donc la preuve de la couronne. Selon Denis Galland, associé principal du cabinet Roy Bélanger, avocat, le délibéré est généralement plus long. On parle d'une semaine, deux semaines, de quelques jours en temps normal, entre guillemets. À son avis, cela témoigne d'une bonne prise de notes de la part du jury. Ce dernier n'aurait pas eu besoin de poser de questions additionnelles au juge ou de réécouter les passages des témoignages, ce qui arrive normalement dans ce genre de cause-là, mais parce que la preuve était bien montée, bien présentée, ça faisait en sorte c'était hors de tout doute qu'il y avait meurtre non prémédité, mais qu'il y avait négligence criminelle. C'est surtout ça le point important, négligence criminelle pour ce dossier-là. Donc, c'est ça, l'accusé était très émotive à son témoignage, mais bon, ça n'aura pas convaincu aucun membre du jury, ou en tout cas, ça les a pas convaincus longtemps. Si ça a été le cas, que bon, son témoignage avait peut-être pas beaucoup de sens, bien qu'elle a reconnu avoir enroulé de tape la jeune fillette, où ça a été peut-être décisif, c'est quand le jeune garçon qui, lui, a vu sa demi-sœur, a confirmé qu'il y avait du tape, mais qu'il y avait énormément de scotch tape, qu'elle en avait même sur la tête, sur les yeux, en voulant dire, elle était pas juste tapée une fois avec une roulette de tape, c'était du gros tape au complet. Elle avait l'air d'une momie, c'est vrai, c'était ça qu'il avait affirmé. Il est nécessaire de placer l'enfant au centre des décisions afin d'éviter les cas comme ceux de la fillette de Granby, soutient Jacques Moreau, professeur de l'École de travail de l'Université de Montréal. À son avis, la recommandation de prioriser l'intérêt de l'enfant émise par le rapport de la Commission Laurent sur les droits des enfants de la protection de la jeunesse est arrivée 20 ou 30 ans trop tard. On aurait dû faire ça bien avant, souligne-t-il. Si le lien développé avec l'enfant est important, il n'a pas à être de nature biologique, explique M. Moreau. Ce qui est important est la qualité humaine du lien, l'amour porté à l'enfant, les soins donnés, l'affection, la reconnaissance et le fait de l'aider à construire sa personne et son estime de soi. Mais avant tout, la stabilité est essentielle pour le développement des tout-petits, conclut le professeur. Donc, à l'avenir, c'est de placer les enfants au centre des décisions plutôt que de juste, être avec sa famille, c'est correct, il n'y a pas de problème. Quand, ça a été la belle-mère qui a été qui aura été le bourreau de cette jeune enfant-là. Donc, ne serait-ce que, évidemment, là, il y aura un retour plus tard pour annoncer le verdict et tout ça. Mais pour l'instant, le jury a reconnu coupable. Le juge a demandé si les membres du jury avaient une recommandation sur la sentence qui devrait être donnée, mais finalement, on s'est abstenu de prononcer quoi que ce soit. À suivre maintenant pour la sanction qui en découlera. On s'arrête quelques instants. Donc, conclusion de dossier du côté de Trois-Rivières. La belle-mère de la jeune fille martyrisée est finalement reconnue coupable sur toute la ligne. Les membres du jury n'ont pas cru son témoignage. C'est déjà ça. On s'arrête quelques instants. Comme je le disais, on va entendre Narcisse et Superplage sur les ondes de Chiz 94.3. Au retour, l'actualité de la semaine qui s'est déroulée ici même dans la région de Québec, dans la région de Sherbrooke, mais aussi à Ottawa. Transformation, le remix, tout de suite en musique. Transformation. De retour au deuxième service. Donc, pour continuer dans la suivi de dossier, c'est maintenant chose réglée. Le Sénat a finalement adopté le projet de loi pour interdire complètement les thérapies de conversion d'orientation sexuelle au Canada. La Chambre haute du Parlement a voté le texte en deuxième et troisième lecture sans débat ni étude. Donc, ça a été de manière assez expéditive, comme ça a été le cas du côté de l'Assemblée. Donc, il ne manquait plus que la sanction royale en date du 7 décembre, sanction qui a évidemment été donnée le lendemain, 8 décembre. La loi criminalise maintenant la fourniture, la promotion ou la publicité des thérapies de conversion au Canada. Il devient également illégal de bénéficier de la prestation d'une thérapie de conversion. Donc, c'est maintenant... En fait, les camps de conversion sont maintenant interdits également. Une thérapie de conversion telle qu'elle est définie dans la loi maintenant comprend une pratique, un traitement ou un service qui vise à modifier l'orientation sexuelle d'une personne pour la rendre hétérosexuelle ou à modifier l'identité de genre d'une personne pour essayer de la rendre cisgenre. Parce que effectivement, on pense beaucoup à l'homosexualité, mais il y a aussi l'autre dimension. Il y a les gens qui font dans ces genres de thérapie-là, qui sont forcés d'aller dans ces genres de thérapie-là pour dire « Non, non, t'es un gars, toi, ou non, non, toi, t'es une fille. Arrête de penser le contraire. T'es une fille, t'es un gars. That's it. » Le Sénat a adopté le projet de loi C-4 à l'unanimité mardi après-midi. La Chambre haute du Parlement fédéral a voté le texte en deuxième et troisième lecture sans débat ni étude, comme je le disais. Une chose semblable s'était produite mercredi dernier à la Chambre des communes. Voilà. La manœuvre avait suscité des cris de joie aux communes et les députés libéraux s'étaient empressés de se rendre de l'autre côté de la Chambre pour remercier les collègues conservateurs de ne pas s'être opposés cette fois-ci. La Chine, l'Inde, le Brésil, l'Allemagne, l'Argentine, Taïwan, l'Équateur et de nombreux États américains avaient déjà criminalisé les thérapies de conversion. Évidemment, il en reste quelques-uns dans les États américains, ceci dit. En France, le Sénat a adopté mardi en première lecture un projet de loi voté par l'Assemblée nationale. Donc, c'est en voie d'être fait du côté français également. Dans ce cas-ci, pour le Sénat, j'avais l'article sur les yeux. Non, ça, c'est celui que j'ai regardé. Le Sénat adopte le projet, vise à criminaliser, entre autres, la pièce fournit une... OK. La pièce législative fournit une définition de la thérapie de conversion, qui comprend... Bon, j'ai de le dire, finalement. Je pense que nous devrions avoir le réflexe dans cette institution que lorsque quelque chose est dans l'intérêt universel, l'intérêt public, nous ne devrions pas créer de dédoublement inutile ou des débats inutiles. C'était la leader du caucus conservateur au Sénat, Léa Oussakos, qui avait prononcé ces mots-là. Donc, c'est quand même... venant d'une conservatrice, c'est quand même particulier. Donc, il a de plus souligné que le Sénat avait déjà bien du pain sur la planche, puisqu'ils doivent déjà se pencher sur d'autres projets de loi prioritaires du gouvernement libéral avant le congé des fêtes de la semaine prochaine. L'adoption de C4 représente un changement de cap pour le Parti conservateur qui faisait obstruction par le passé. Le parrain du projet de loi au Sénat, le sénateur René Cormier, s'est réjoui de la tournée des événements. Un important jalon vient d'être franchi pour les droits des communautés LGBTQ2+ au Canada et j'en suis plus que fier, avait-il écrit sur Twitter. Je veux remercier tous les sénateurs. Nous accomplissons de grandes choses lorsque nous travaillons tous ensemble, a réenchéri le ministre fédéral de la Justice, David Lamenti, sur le même réseau social. C'était sur Twitter. Un mouvement mondial, on l'avait dit pour les autres pays. Le Sénat français, à majorité de droite, s'était aussi prononcé contre les thérapies de conversion. Donc voilà pour le côté français. Mardi, en adoptant la première lecture, députés et sénateurs devront maintenant tenter de s'accorder sur une version commune du texte en commission mixte paritaire. En cas d'échec, l'Assemblée nationale aura le dernier mot. La proposition de loi prévoit, du côté français, un délit spécifique contre les soi-disant thérapeutes ou les religieux qui prétendent guérir les homosexuels, une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende leur serait réservée. Donc, même la proposition française va beaucoup plus loin en rendant criminelle l'action de convertir, tandis qu'au Canada, ben, c'est en faire la promotion ou ben, de se rendre jusque-là, mais il n'y a pas de peine d'emprisonnement, bon, en tout cas, dans ce qu'on a comme information pour l'instant, il n'y aurait pas nécessairement de peine d'emprisonnement associée à des gens qui voudraient convertir à la gloire de Dieu et de rentrer dans le bon chemin. Là-dessus, un film qui a été fait du côté américain qui est extrêmement bon, ben bon, extrêmement dérangeant. C'est le genre de film duquel on sort fâché, mais qui représente justement cette histoire-là, ce que les ravages que peuvent faire ces thérapies de conversion-là. C'est le film Boy Race, mettant en vedette notamment Lucas Hedges et Nicole Kidman. Et Russell Crowe qui joue le père là-dedans, mais Nicole Kidman qui est extraordinaire dans ce film-là. C'était le deuxième film dans lequel Nicole Kidman jouait une mère dans les années 90 et elle est tellement parfaite là-dedans. Nancy Emmons dans ce film-là. Donc, ça se passe aux États-Unis, c'est vraiment ça. C'est le jeune garçon qui pense peut-être avoir un penchant peut-être un peu gay. Son père, qui est un preacher baptiste, évidemment, n'accepte pas ça. Décide d'envoyer son fils dans un camp de thérapie, de conversion et tout ça pour le faire redevenir hétéro. Ça vaut... honnêtement, c'est sûr que le sujet il est très lourd, mais ça reflète un peu. C'est basé sur une histoire vraie. L'auteur, Joel Edgerton, qui, bon, avait mis en histoire sa vie, ce passage-là dans ses thérapies-là. Et puis, bon, on a fait l'adaptation cinématographique de tout ça. Il y a un clin d'œil, d'ailleurs, à Connolly. En fait, non, c'est ça. C'est Gerard Connolly, le gars sur qui sa vie s'est basée. Mais il y a un scénario qui a été fait à partir de ce livre-là, fait par Joel Edgerton, qui était réalisateur et du script basé sur Boy Race, A Memoir by Gerard Connolly. Donc, c'est basé sur ce gars-là. Ça vaut réellement la peine de le trouver. Boy Race, je pense que c'est littéralement Garçon effacé dans la version française. Et pourquoi ce film-là avait fait parler quand même? C'est qu'on y retrouvait quand même au casting Xavier Dolan et Théodore Pellerin donc Xavier Dolan était dans la thérapie, puis Théodore était comment qu'on pourrait l'appeler? C'est un artiste pour lequel Jared Emmons avait peut-être un petit penchant pour Xavier. Fait que on avait 2 Québécois dans ce film-là quand même. Donc à voir malgré. Pas malgré tout. À voir point. ne serait-ce que pour comprendre un peu ce phénomène-là des thérapies de conversion, à quel point ça peut être beaucoup trop intense et tellement absurde du côté américain. Garçon effacé au Québec, c'est un film qui est sorti en 2018. On s'arrête quelques instants. Au retour, on revient dans l'actualité de la semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de Chiz et de CFAQ.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
T'as envie de rire, te divertir et parler des vraies choses? Entre toi et moi, c'est la nouvelle émission sans tabou à ne pas manquer cet automne. Rejoins-nous chaque mercredi de 9h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Parfois, l'actualité peut sembler nébuleuse, confuse, opaque et peut mener à des questions du genre « C'est qui ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en parle? » Chiz 94.3 a la solution miracle pour toi. Écoute Un fort dans le midi tous les jours en semaine dès midi. Avec Guillaume Bédard et son équipe, on est là pour t'éclairer sur les enjeux d'actualité. Avec des chroniques, des analyses, des entrevues, du contenu pertinent et recherché. Un phare dans le midi, c'est ta quotidienne d'actualité pour tout savoir et tout comprendre sur les ondes de Chiz 94.3.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
De retour au deuxième service Requin Chagrin avec Nuit, qu'on vient d'entendre sur les ondes de Chiz et de CFAC. Une chance. En fait, on va continuer en judiciaire. C'est très judiciaire cette semaine, mais c'est des choses qui arrivent. Suivi de dossier, je pense que j'en avais parlé ici même au deuxième service. Sinon, dans l'émission du retour ici à Québec, on l'avait évoqué. L'acteur de la série Empire du côté d'ABC, Jussie Smollett, a été finalement reconnu coupable d'avoir mis en scène une agression raciste qui est survenue il y a quelques années. Ça fait déjà 2-3 ans que c'est arrivé. Donc, le comédien âgé de 39 ans, afro-américain et homosexuel, était accusé d'avoir planifié une fausse agression en payant 3 500 $ à deux frères d'origine nigérienne et d'avoir menti à plusieurs reprises à la police dans ses dépositions. Donc, l'acteur américain a été reconnu coupable jeudi hier par un tribunal de Chicago. Ils ont fait ça assez de manière expéditive parce que, me semble, le procès est ouvert mardi. Fait que ça n'a pas été très long. Une agression raciste et homophobe dont il se disait victime, qui avait provoqué une vague d'indignation à l'époque aux États-Unis, évidemment. La peine sera prononcée ultérieurement. Il encourt 3 ans de prison, mais pourra être condamné à seulement des travaux d'intérêt général à suivre de ce côté-là. Selon les médias américains, l'avocat de M. Smollett, Nain Hooch, a annoncé que l'acteur comptait faire appel. Le verdict est « incohérent », a-t-il dit. « Nous sommes à 100% confiants que nous allons gagner en cas d'appel », a-t-il déclaré durant une conférence de presse dans l'énoncé du verdict. Ben, coudonc, il peut vivre dans son monde, lui, avec. Il a toujours assuré avoir été attaqué en pleine nuit le 29 janvier 2019 dans une rue de la métropole au nord des États-Unis par 2 hommes masqués affirmant être des partisans de Donald Trump. Il l'aurait frappé en proférant des insultes racistes et homophobes et lui aurait mis un nœud coulant autour du cou. Donc ça, c'est lorsque la nouvelle est sortie, selon ses affirmations au départ. Ce n'était pas un canular, a-t-il affirmé lundi lors d'un témoignage très attendu, démentant à 100% les accusations. Selon les avocats, Jussie Smollett a été agressé par Abim Bola et Olabinjo Osandero, deux frères rencontrés sur le tournage de la série Empire qui étaient motivés par l'argent et dont l'un était homophobe. L'acteur a expliqué que les 3 500 $ devraient payer un programme OK, parce que c'est vrai. Techniquement, un des deux frères a obtenu 3 500 $ de Jussie Smollett pour le battre et mettre en scène Ah, c'est des figurants en plus de la série. Ah, ça, c'est très drôle. Donc, il devait le tabasser pour 3 500 $. Ça a bien l'air. Lui a expliqué que ce 3 500 $-là devait plutôt payer un programme d'entraînement et de nutrition mis au point par un des deux frères. Ah, il achetait un programme d'entraînement. Cute! Qui avait ensuite tenté sans succès de se faire embaucher comme garde du corps. On ne sait pas trop pourquoi. Mais pour l'accusation, le comédien a manigancé l'attaque pour faire avancer sa carrière et parce qu'il reprochait au studio de production de ne pas avoir réagi après la réception d'une lettre et d'un appel téléphonique de menace. Il y avait eu aussi une première version qui disait que c'était parce que la série Empire allait se terminer en 2020. Semble-t-il que c'est pas complètement ça. Les deux frères qui n'étaient pas poursuivis avaient livré la semaine dernière les témoignages accablants contre l'acteur. Selon l'un des deux frères, l'acteur parlait des studios qui ne prenaient pas la lettre de menace au sérieux. Il m'a alors dit qu'il voulait que je le frappe et que j'étais supposé le frapper, mais pas trop fort, avait dit un boxeur qui combat au niveau national chez les amateurs. Il a accepté car il se sentait redevable de l'acteur qui l'avait aidé à obtenir un petit rôle dans la série. Il a aussi démenti avoir eu une relation amoureuse avec lui. Eh bien, son frère aurait, pour sa part, détaillé comment l'acteur lui aurait dit « quelle insulte proférée », Donc, ils avaient révisé le texte ensemble. Et cette affaire avait provoqué un choc dans le pays, encore fortement marqué par la discrimination raciale. Jesse Smollett avait immédiatement reçu le soutien de nombreuses personnalités du monde politique et culturel, dont notamment les co-acteurs de sa série. Les images de télésurveillance, l'examen des données téléphoniques des trois hommes et des vidéos avaient toutefois rapidement semé le doute chez les enquêteurs qui avaient conclu à une mise en scène. Et évidemment, ben après ça, il avait laissé croire qu'il y avait une enquête à faire, mais que, bon, pour avoir niaisé la police de Chicago, c'est comme ça qu'il y a des accusations qui ont été portées contre lui. Malheureusement, on n'a pas cru l'histoire de y acheter un programme de fitness, puis ça donne qu'il était dans la même ruelle, la même soirée. Donc, finalement, il est reconnu coupable. Fera-t-il les travaux correctionnels? Ira-t-il en prison? Ça serait quand même particulier, mais quand même. Donc, quand la réalité dépasse la fiction, comme quoi c'est un peu judiciaire aussi, Empire, bien que ce soit la musique qui soit mise au centre, mais c'est on se ramasse en procès dans la vraie vie aussi. Donc, Jesse Smollett qui sera derrière les barreaux. Et peut-être une question de temps avant que Disney Plus décide de retirer la série Empire de sa section star. Quoique la dernière saison, il n'y figure pas du tout, même qu'il a manqué les deux derniers épisodes de la saison 5 et la saison 6, bon, l'a tassé complètement. Malheureusement, c'était là un des personnages principaux, donc un petit peu difficile de le tasser. Je pense qu'on a... On avait réussi à trouver une twist dans le scénario pour être capable de l'enlever, mais ça serait... À vérifier si le temps le permet. Je vais essayer de clencher la série pour en savoir plus. Donc, plus de détails un moment donné sur la série Empire. Ça s'écoute très bien. C'est quand même très bon. Mais malheureusement, il y a des gens dans le casting principal qui ne sont pas des bonnes personnes. Donc, ça pourrait coûter la série. Quoique, House of Cards est toujours disponible sur Netflix, bien que Kevin Spacey ne soit pas une bonne personne non plus. C'est sûr que les posters ne sortent pas vraiment avec Kevin Spacey en tête d'affiche, mais bon, à suivre comment est-ce que la situation sera gérée. Disney Plus sont bons pour censurer des trucs assez subtilement. Fait qu'à quel point ils vont tasser la série au grand complet, on l'espère pas, parce que sinon c'est juste plate pour tout le reste du monde sur ce show-là, qui se retrouve pénalisé à cause de une ou deux pommes pourrites dans le scénario, mais dans le casting de gens. Donc voilà ce qu'il y en est pour Jesse Smollett. On s'arrête quelques instants. Courte pause musicale. Au retour, on conclut la saga judiciaire de la semaine avec les complotistes qui se retrouvent en cours pour une nouvelle fois et ça risque d'être particulièrement amusant. Heureusement que Tristan Péloquin de La Presse couvre ça parce que malheureusement, il n'y a pas d'assistance dans ce genre de truc-là, ou en tout cas de gens qui peuvent se déplacer pour juste assister au show. Heureusement que Tristan Péloquin est dans le coin pour rapporter le tout du côté de La Presse. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de Chiz et de CFAQ, Ken Lo, en musique.
Sincère et honnête, on en a parlé. Mais est-ce qu'on l'a compris? Nourri par le combat, solide parmi les zombies. Hey, hey, je te parle maintenant, dis-moi pas, ça va bien aller. Il faut ça aujourd'hui, on se met un bon vieux soca. Donc connaît toutes les notes, oh oui. On a deux joues, bien à côté, sauteur lève. Deux beaux yeux, mais une seule langue. Une seule langue, une seule langue. Pas besoin de se presser, se mentir comme des gens qui oublient qu'ont une seule langue, une seule langue.
Shorty bad and she hella rare. Models on the gram, they don't compare. So that we can make a great pair. Doesn't even matter if I do not speak the front set. I'm a gentleman, I got hella manners. Love a boy, that's my only language. When I got a vision, I got hella passion. Staring at my fit, yeah, I got the fashion. Yeah, I got the drip, yeah, so I'm feeling big, big. Got the Maggies in my hand, taking big sips. Shorty says she like my flow, I feel like Roddy Rich, rich. Cause I'm getting out the box, it cannot hold me in. Took her on a date, nicely. Think her mama wanna be my wifey. I'm a glacier boy, ha. Baby catching feelings so quickly. Why she blow my phone if she want me? Game top tier, you should trust me.
Is that pretty money? Yeah, it must be, surely. I got hella pattern, wait, yeah, she got me whip, whip. And I got a whip, whip. It's a great match, so we swerving in a whip. She might rather die, yeah, she always do it right. Says she always better when I got her by my side, eh.
Faudrait être sincère et honnête, on en a parlé. Mais est-ce qu'on l'a compris? Nourri par le combat. Solide parmi les zombies, hey, hey, hey. Je parle maintenant, tout le monde pense, ça va bien aller. Il faut ça aujourd'hui, on se met un bon vieux soca. On connaît toutes les notes, oh oui. On a deux joues, bien à côté sur deux lèvres. Deux beaux yeux, mais une seule langue. Une seule langue, une seule langue. Tout notre temps, trop pas besoin de se presser. Se mentir comme des gens qui oublient. Une seule langue, une seule langue.
Retour au deuxième service pour la conclusion. Bon, comme je le disais avant Canelo en musique, en mars dernier, Jonathan Blanchette, connu sous les réseaux sociaux comme étant Joe l'Indigo, avait été arrêté après avoir diffusé une vidéo sur Facebook dans laquelle il suggérait de créer un groupe de sentinelles composés de mâles alpha qui n'auront pas peur afin de neutraliser les policiers qui encadraient les manifestations anti-mesures sanitaires. Se représentant seul devant... En fait, non, là, on va lire la citation en premier. « J'aimerais vous rappeler que tout individu a le droit de s'acheter du poivre de Cayenne pour les ours ou de posséder un taser », disait-il. Il suggérait ensuite d'en asperger les casques des policiers. Ils vont être pleins de poivre de Cayenne puis ils ne pourront rien faire. Tu penses que la police est capable d'arrêter une milice organisée? » avait-il dit sur une vidéo publique sur Facebook. Se représentant seul, Jonathan Blanchette s'est présenté mardi devant le juge Richard Marleau de la Cour du Québec en affirmant que les accusations d'incitation à la haine contre des agents de la paix déposées contre lui n'étaient pas crédibles. Il réclamait que son procès se tienne immédiatement. Donc, mardi, quand il était devant la cour, il disait qu'on fasse le procès là. « J'ai hâte de mettre fin à ce cirque », a-t-il lancé au juge, se vantant d'avoir gagné 8 procès en se représentant seul et qu'il comptait bien gagner celui-là rapidement. Dans ses vidéos, il est baveux. Là, il est baveux devant un juge. Le juge n'est pas particulièrement content. Environ une heure plus tard, il s'est de nouveau présenté en salle d'audience, se plaignant cette fois que le procès par procédure sommaire réclamé par la couronne ne le satisfait pas. Il n'était pas content de tout ça. L'accusé a insisté depuis sa première comparution. Il réclame de se défendre devant juge et jury plutôt que devant un juge seul. L'avocate de la couronne, maître Émilie Gadebois, lui a rappelé que dans les faits, monsieur encourt une peine moins sévère par procédure sommaire. Donc, que si c'était réglé devant juge seul, il pourrait se ramasser avec des travaux communautaires. Devant jury, ça pourrait être beaucoup plus d'heures puis peut-être de l'emprisonnement. Mais lui insiste pour qu'il y ait un jury dans la salle pour le condamner plutôt qu'un juge seul. Selon Blanchette, le fait que la couronne retire les accusations criminelles pour les remplacer par des accusations sommaires de moindre gravité annule de facto les conditions de libération qui ont suivi son arrestation. Donc, vu que c'est un peu moins grave les accusations qu'il y a contre lui, il juge et il a dit « Je dois être dédommagé pour ma détention ». Parce qu'il avait été arrêté et mis en détention l'hiver dernier. Je ne sais pas si c'est moi qui suis fou, mais j'ai subi un préjudice. Alors, c'est Blanchette en cours. Il y a un petit peu de fou là-dedans, mais en tout cas. Ça, ce sont vos prétentions, lui répond le juge Marlowe, lui soulignant à plus d'une occasion qu'il ne tolérerait pas d'être constamment coupé par l'accusé, ni de comportement irrespectueux ou de langage inapproprié de sa part dans sa salle d'audience. Chose qu'il fait quotidiennement en étant sur son balcon, dans sa cour chez eux, à hurler sur son téléphone cellulaire que les Québécois sont des cons et que ses voisins, à un moment donné, vont lui dire « ferme-la », mais que lui, après ça, commence à les engueuler en direct sur Internet depuis son balcon. Ça donne des shows sur Internet, c'est l'enfer, mais lui, il est convaincu de faire la bonne chose, même s'il est dans le délire le plus complet. Pour se défendre d'avoir un langage inapproprié, « Je souffre de logorrhée verbale », a répondu l'accusé. « Veuillez ne pas prendre pour un manque de respect, ça fait partie de mon schéma psychologique. » Donc, il dit « souffrir de logorrhée ». Ce qui est quand même bon. Il a utilisé un mot compliqué, « logorrhée », flux de parole, mais quand même, il a appris un beau mot. C'est au moins ça. De la mouvance des citoyens souverains, Jonathan Blanchet a diffusé depuis le début de la pandémie plusieurs vidéos souvent vues par des dizaines de milliers de personnes où il interprète le droit de façon ultra créative sans en avoir les compétences. Parce qu'il lit un texte de loi puis il l'interprète au premier degré ou en tout cas il l'interprète de la manière qu'il pense avoir compris comment la vie fonctionne. Il a aussi fait une vidéo où il prétend, en faisant couler de l'eau sur une balle, faire la démonstration que la Terre n'est pas ronde. Fouillez-moi comment, mais ça a l'air que ça veut dire que la Terre n'est pas ronde parce que de l'eau sur une balle. Enfin. Ah, OK. Il fait couler de l'eau sur une balle, donc les océans devraient se vider vu que la Terre est plate puis que l'eau reste. Fait que de l'eau sur une balle, l'eau tombe à côté. Ça doit être ça. Son compte Facebook a par ailleurs eu en vitrine le logo des Three Percenters, une milice d'extrême droite pro-armes américaine. Il a appelé aux armes aussi ou à se défendre. La suite de son procès a été reportée en janvier. C'était à la mi-janvier, sauf erreur. Blanchet pourra alors faire officiellement une requête pour avoir un procès devant jury plutôt que d'être devant juge seul. On le rappelle, mais encore une fois, devant juge seul, il aurait une cause un peu. Ben en fait, il aurait une sentence un peu moins sévère que présentée devant jury dans ce cas-ci. En terminant, fait divers, mais c'est quand même assez particulier. Ça ne se passe pas nécessairement du côté de Sherbrooke, mais on reste quand même dans la région de Shawinigan dans ce cas-ci. Et c'est une nouvelle assez étrange, mais en même temps assez décevante, mettons. En rentrant au travail mercredi matin dernier, Marie-Claude Ross, copropriétaire de la pâtisserie du Palais à Shawinigan, a eu la mauvaise surprise de constater qu'elle s'était fait voler 200 bûches de Noël, entreposées dans des remorques à l'arrière du commerce. Les gâteaux étaient destinés à des collègues de fonds. Et se désole celle qui devra reprendre l'ouvrage de zéro. Le temps des fêtes garde le commerce occupé. Madame Ross avait terminé sa journée de mardi à 23h30. Quelques 800 bûches de Noël étaient prêtes à être livrées au Carrefour Jeunesse Emploi, au hockey mineur de Saint-Boniface et aux Damoiselles, un organisme de la région. Maison d'hébergement venant en aide aux femmes et aux victimes de violences conjugales depuis 2020. Collègues de fonds qu'ils font, explique la pâtissière. La marge de profit est pratiquement inexistante. Madame Ross y voit surtout une forme d'implication dans sa communauté. Les gâteaux avaient été placés à l'extérieur dans des remorques, faute d'espace dans les frigos. Le temps froid ferait l'affaire. À son retour au commerce, le lendemain, aux aurores, Madame Ross a constaté le méfait. On s'était fait voler à peu près 200 bûches. Ça représente une journée et demie à deux de travail. Si on calcule la décoration, la préparation des crèmes, c'est un à deux jours et demi certains qu'il faut rattraper. Les remorques dont on a forcé les portes n'étaient pas identifiées aux couleurs de la pâtisserie. L'une d'elles portait même le logo d'une équipe de baseball. Il ne s'attendait pas du tout à voir des bûches, S'il ne s'attendait pas à voir des bûches dans les remorques, à quoi s'attendait-il et pourquoi sont quand même partis avec? D'où est la question. Je ne sais pas. Laissez-le tomber. Ils ont rempli leur camion, même s'ils ont laissé des boîtes là, et ils ont sorti des bûches. D'après moi, il n'y avait plus de place dans le camion. Ils ont voulu en sortir le plus possible. J'étais découragé de voir que tout le travail qu'on avait fait avait disparu en un claquement de doigts. Ça donne quoi de voler des bûches, s'interroge-t-elle. C'est la police elle-même qui aurait suggéré à la commerçante de partager sa mésaventure sur les réseaux sociaux pour réveiller l'attention du public et de débusquer une éventuelle tentative de revente de bûches de Noël. Et la question est là, à quel point on est rendu où quand on vole des bûches de Noël? Et la question se pose, à quel point on peut être... Encore une fois, une mauvaise personne dans la vie pour aller oser voler des bûches de Noël. Et t'en fais quoi après ça de ces bûches de Noël-là? C'est ça la question, parce que tu peux pas revendre des bûches de Noël n'importe où, d'un, mais en même temps, ça fait en sorte que maintenant que l'histoire est médiatisée, les gens qui sont pognés avec 200 bûches de Noël ne seront jamais capables de revendre ça, parce que les gens vont faire comme « Ouais, c'est vous autres? » Bref. C'est là-dessus que ça se termine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de 2021. Et il y aura émission spéciale par la suite pendant le temps des fêtes sur les ondes de Chiz 94.3 et sur les ondes de CFAC 80.3. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière. À la semaine prochaine. Salut.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Chérie, j'arrive. C'est toi qui arrives en ville et qui découvre à quel point il y a du beau et du bon talent artistique à Québec.
En semaine, dès 16h, à Chiz 94.3.
Dernière heure. Nous venons d'apprendre une nouvelle que la population québécoise attendait depuis très longtemps. Il semblerait que dès demain, toute la province aura...
Ça vous laisse sur votre faim de pas savoir c'est quoi la nouvelle que tout le monde attendait? Imaginez pas savoir si vous allez manger ce soir. Personne ne devrait rester sur sa faim. La Guignolée des médias vous invite à donner chez Jean Coutu, Provigo et Maxi ou à guignolée.ca.
Bordel en réveillant Saint-Charles. Boisé sur le slalom, mes zigzags.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Funk Connection, les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Ville de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutez présentement Un fort dans le midi, votre quotidienne d'actualité en ce vendredi 10 décembre 2021. C'est notre dernière émission de l'année, notre dernière émission régulière. Et pour ce faire, c'est Guillaume Bédard qui est avec vous au micro et j'ai l'honneur, le plaisir et l'incroyable privilège d'être en compagnie de Sarah Manzano. Salut Sarah, comment tu vas?
Oh, ça va très bien. Écoute, Guillaume,